Radio Okapi. Oh, Okapi.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au sommaire de ce journal, à Mongoualou, la sensibilisation contre Ebola porte ses fruits. Après des semaines de méfiance, de plus en plus de personnes se rendent volontairement à l'hôpital dès l'apparition des symptômes, réduisant ainsi les décès communautaires. Nord Kivu, le prix du poisson flambe. Conséquence directe de la fermeture de la frontière ougandaise de Mpondwe, une mesure liée à la lutte contre Ebola qui affecte aussi les activités des commerçants. Goma, Salama Bibilei célèbre l'amour et le courage. Deux livres portés sur les fonts baptismaux rendent hommage aux mères célibataires et rappellent que l'amour reste possible malgré les blessures de la vie. Mais qu'est-ce qui a inspiré ces récits? Salama Bibilei répond dans un entretien avec Rosalie Zawadi. Encore une fois, bonjour à tous. À Mongoualou, épicentre de la maladie à virus Ebola, en Ituri, les efforts de sensibilisation contre l'épidémie commencent à porter leurs fruits. Après plusieurs semaines marquées par la méfiance et la résistance d'une partie de la population, de plus en plus de personnes se rendent désormais volontairement à l'hôpital dès l'apparition des premiers symptômes. Il y a encore 2 à 3 semaines, les équipes sanitaires enregistraient en moyenne 15 décès communautaires par jour. Jean-Claude Lokidile.
Selon le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Mongoualou, le docteur Richard Lokoudou, ce chiffre est aujourd'hui tombé à environ 4 décès quotidiens, signe que les malades consultent plus rapidement. Cette évolution se reflète également dans les admissions, alors qu'auparavant, le centre de traitement recevait 3 à 4 cas confirmés par jour. Il accueille désormais près de 10 cas quotidiennement. En moyenne, 20 cas suspects sont admis chaque jour et près de 60% d'entre eux sont testés positifs à Ebola. Une trentaine de patients confirmés sont actuellement pris en charge. Le docteur Richard Lokoudou attribue cette amélioration aux campagnes intensives de sensibilisation menées sur le terrain, ainsi qu'aux mesures annoncées récemment par le ministre de la Santé, Roger Samuel Nkamba, notamment la gratuité des soins et la disponibilité des médicaments.
Nous appelons la population à faire confiance au personnel médical qui prenne en charge les cas, parce que la prise en charge elle est nettement améliorée. Il y a lieu vraiment à appeler la population à ne pas rester à la maison. Venir tout droit à l'hôpital, moins encore se faire des automédications.
Pour les équipes médicales, cette évolution témoigne des changements encourageants, réduit les décès à domicile et contribue à freiner la propagation de l'épidémie. Bounia, Jean-Claude Loki, il est Radio Cap.
Ebola encore à Beni au lendemain de l'agression d'une équipe de riposte contre Ebola en pleine intervention dans le quartier Mambango vendredi. Le maire de la ville promet des poursuites judiciaires contre les auteurs. Il appelle par ailleurs la population à ne pas céder à la manipulation, rappelant que la maladie existe bel et bien et continue de faire des victimes. Jacob Niofondo, maire de Beni, est au micro de Marc Marofimbo.
J'informe toute la population de la ville de Beni et ses environs que la maladie à virus Ebola existe bel et bien. Je mets en garde toute personne ou tout groupe d'individus qui tentera d'empêcher les équipes de la riposte d'exercer leurs activités. La police est instruite de l'arrêter et de le traduire en justice. Je mets également en garde certains groupes de jeunes manipulés par l'ennemi qui barricadent le riz et avenue pour empêcher les services de sécurité de mener correctement leur patrouille. Quiconque sera arrêté en flagrance sera immédiatement mis à la disposition de la justice à travers des audiences foraines.
Je le disais en titre, au Nord Kivu, le prix du poisson connaît une hausse significative sur les marchés du territoire de Beni et de la ville de Butembo. À l'origine de cette situation, la fermeture de la frontière ougandaise de Mpondwe, consécutive aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola, une réalité qui affecte également les activités des commerçants du secteur. Marc Marofimbo nous en dit plus.
C'est depuis un mois et demi que le poste frontalier de Mpondwe, principal point d'entrée des marchandises en provenance des pays de l'Afrique de l'Est, est fermé pour cause d'Ebola. Les premiers à subir les effets de cette situation sont les vendeurs et les consommateurs de poissons frais, fumés et salés, souvent importés de la Tanzanie, de l'Ouganda ou encore du Soudan du Sud. Sur les marchés de Beni et de Butembo, les étalages sont peu approvisionnés, les poissons se faisant désormais rares. Cette baisse des ravitaillements entraîne une hausse sensible des prix. À titre illustratif, un poisson tilapia qui s'est négocié entre 5 000 et 7 500 francs congolais se vend actuellement entre 12 000 et 15 000 francs. Une tendance similaire est observée pour les poissons frais et fumés. Cette situation impacte également d'autres secteurs, notamment celui de la vente des chèvres. À Beni, par exemple, une chèvre qui coûtait entre 50 et 60 dollars américains se vend aujourd'hui à presque 80 dollars. Face à ces difficultés, certains commerçants prennent le risque de s'approvisionner à Kasenyi, au bord du lac Albert, dans la province de l'Ituri, ce qui rallonge les délais de livraison et les coûts des transports et en même temps pousse les prix à la hausse sur les marchés de la région. Beni, Marc Marofimbo, Radio Capri.
Situation similaire dans le Kasaï central où le poisson salé, le poisson fumé et les frétins deviennent de plus en plus chers à Kananga. Sur plusieurs marchés, les prix ont doublé, voire triplé. Une hausse qui pèse lourdement sur le budget des ménages, surtout les plus démunis. Les vendeurs expliquent cette situation par la rareté des produits. Les détails avec André Katende Ngalamolome.
À l'espace Ndakoyabiso, derrière le marché central de Kananga, l'un des principaux lieux de négoce où se vendent en gros et denrées alimentaires, les dépôts sont presque vides. Conséquence, les prix flambent. Une mesurette de frétin communément appelée meka, vendue autrefois à 15 000 francs congolais, coûte aujourd'hui entre 30 et 40 000 francs. Pour les commerçants, cette hausse s'explique par les difficultés d'approvisionnement. Ils pointent notamment le problème des transports par voie ferrée. Joseph Moulumba explique.
Arrivé au niveau de Lubumbashi, là où notre grand transporteur qui est la CSC, beaucoup de retard. Certains de nos membres ont préféré amener les petites quantités par l'avion.
Cette situation affecte directement les consommateurs. Au quartier du Kongaï, dans la commune de Lukonga, Rachel Ntumba, mère de cet enfant, peine à acheter du poisson salé ou de frétin pour sa famille. Nous sommes fatigués de manger le feuillage. Vous pouvez partir avec 5000 francs au marché, mais le frétin et le poisson salé coûtent cher. Il y a quelques jours, l'association des vendeurs de poissons du Kasaï central dénonçait déjà les retards dans l'acheminement de ces marchandises en provenance de l'espace Grand Katanga. Kananga, André Katende Ngalamulume, Radio Okapi.
La situation n'est pas différente à Kisangani où les paniers de la ménagère traversent une période difficile. Les prix des produits sur les marchés restent inchangés malgré la suspension depuis une semaine des taxes sur les produits de grande consommation par le ministre provincial des Finances. Cette mesure visait à soulager les ménages confrontés à la hausse des prix alimentaires. Certains opérateurs économiques expliquent cette situation notamment par la dégradation des infrastructures routières. Constat et réaction dans ce reportage de Jacques Moukonkolé.
Au marché cabine, les étals sont pleins, mais les visages des acheteurs restent crispés. L'annonce gouvernementale n'a pas fait baisser le prix du riz, de l'huile ou de la farine d'un seul franc. Sur place, la déception est générale, comme en témoigne cette dame.
Cette décision du gouvernement n'a pas influencé positivement les prix des denrées alimentaires au marché, ça reste les mêmes.
Même des même amertume dans un autre grand marché de la ville. Ici, l'avant et l'après-décision se confondent parfaitement. Témoignage dit Notre-Dame.
Descendre aussi les terrains et même faire le constant qu'ils puissent faire baisser les prix.
Le gouvernement provincial espérait pourtant stopper l'envolée quotidienne des prix en gelant ses taxes. Une mesure salutaire sur le papier, mais jugée éphémère et insuffisante par les opérateurs économiques. Pour la Fédération des entreprises du Congo, le vrai problème est ailleurs. Il faut s'attaquer aux infrastructures. Robert Osunja, vice-président de la FEC.
En amont, on aurait dû commencer d'abord par la réhabilitation des routes de desserte agricole, de préparer même dans de chefs-lieux de collectivités ou de groupements des silos.
Rappelons que parmi les facteurs à l'origine de la hausse des prix sur le marché local figure la rareté de certains produits provoquée par la non-arrivée des bateaux de Kinshasa. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Fluidifier le trafic, améliorer la sécurité routière et renforcer les échanges entre Kinshasa et le Congo central, tels sont les objectifs des recommandations adoptées le 19 juin à Kinshasa pour la route nationale numéro 1. Souvent confrontée aux embouteillages, à la dégradation et au désordre au péage, cette voie stratégique devrait bientôt être mieux organisée. Ces mesures ont été décidées lors d'une réunion sur les corridors Kinshasa-Matadi en présence des autorités et des principaux acteurs du secteur. Écoutons Babi Koundou, le directeur provincial de la CGT au Congo central, dans cet extrait sélectionné par Élise Kavira.
Il y a eu des avancées notables à l'exercice 2025 de cette concession. Et donc, il a été demandé par la commission d'évaluation que l'Agence congolaise des grands travaux puisse rapidement finaliser les études de la route Kinshasa-Matadi qui devra passer de 2 voies à 4 bandes avec dans le 2 sens 2 voies. Du côté des Sopeco, vous savez que les plus grands ennemis de la route, c'est le tonnage excessif. Il a été décidé que Sopeco puisse construire et achever très très rapidement les aires de repos et des stockages de marchandises pour servir à ce que la remorque qui dépasse le tonnage puisse non pas être pénalisée, mais décharger sa marchandise. Mais aussi, il a été sollicité auprès de Sopeco des travaux particuliers pour la voirie de Matadi. Il s'agit notamment de la boucle de Bungena, de la route qui va du rond-point Kianvu vers les stades, de la route Lelo Mbulu, également des routes qui partent de l'hôtel du gouvernement vers Damar et vers le tribunal. À cela, on peut inclure la route d'accès à l'aéroport de Chimpi.
Dans le même registre, la route nationale numéro 41 qui relie Kananga à Ilebo, dans sa partie comprise entre Ndesha et Lukonga, longue de 7,5 km, va bientôt revêtir d'une nouvelle robe. L'annonce est du coordonnateur du projet d'urgence et de résilience de Kananga, Puruk. C'était lors d'une réunion tenue vendredi avec les entreprises qui vont exécuter les travaux. Ces derniers démarrent au mois de juillet prochain pour une durée de 8 mois. Il vise à protéger durablement cette section de route ainsi que la voie ferrée voisine menacée depuis plusieurs années par les érosions. Suivez Jean-Michel Bungu, coordonnateur du PURUC, au micro de André Katende Ngalamouloumé.
Aujourd'hui, nous avons tenu la séance de mobilisation précoce dans le cadre du marché de réhabilitation de 7,5 km de RN41 que nous allons lancer bientôt. Le cabinet qui a mené les études nous a délivré le rapport d'études, mais comme les règles de la Banque mondiale les recommandent dans le cadre des appels d'offres internationaux, il fallait qu'on procède par ce qu'on appelle mobilisation précoce. Ça consiste à inviter les entrepreneurs potentiels pour qu'ils puissent nous apporter leur contribution pour améliorer la qualité du travail qui sera exécuté. Et surtout, de faire exécuter ces travaux dans un délai de 8 mois. C'était le désir des bénéficiaires dans le cadre de notre sous-composante 2 où il fallait aussi tenir compte de la réhabilitation de quelques voiries. Le PK0, c'est l'intersection de l'avenue Sankoure et Révolution.
Au Kasaï oriental voisin, pendant ces temps, un bâtiment neuf abritant une école est sorti des terres à Benakazadi, un petit village du territoire de Kabeaka-Mwanga. Vendredi dernier, le gouverneur du Kasaï oriental a inauguré l'école primaire Machabambi, la toute première infrastructure scolaire moderne jamais construite dans cette localité. Une cérémonie simple mais chargée d'émotions pour les habitants longtemps confrontés à un manque criant d'infrastructures éducatives. Des explications avec Esther Ndalafina.
Pendant des années, les enfants de Benakazadi ont étudié dans des conditions précaires, assis à même le sol sous des huttes de fortune faites de feuilles de bananier et de rameaux, une réalité qui contrastait avec leur soif d'apprendre et la détermination des enseignants à maintenir l'école en vie malgré les difficultés. L'école inaugurée est composée composée de deux bâtiments modernes, chacun abritant trois salles de classe équipées en bancs pupitres. Un bureau pour les directeurs ainsi que des latrines ont également été construits, offrant enfin un cadre digne aux élèves comme au personnel enseignant. Même si le coût total des travaux n'a pas été communiqué, les autorités provinciales affirment que le projet a été entièrement financé sur fonds propres du gouvernement provincial. Pour les habitants, cette école représente bien plus qu'un simple bâtiment. C'est un symbole de changement, un signe que leur village, longtemps oublié, commence à attirer l'attention des autorités. Les parents espèrent désormais que leurs enfants pourront étudier dans les meilleures conditions et rêver d'un avenir différent. Mais derrière cette avancée, une autre réalité persiste. Le personnel enseignant, bien que mécanisé, affirme travailler depuis 9 ans sans percevoir de salaire. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Province du Haut-Katanga, avant d'aller plus loin, l'accord de partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis a été au centre d'un panel organisé lors de la DRC Manning Week à Lubumbashi qui s'est clôturé ce vendredi. L'ambassade des États-Unis en RDC ainsi que des responsables d'entreprises minières américaines impliquées dans cet accord ont échangé sur la mise en œuvre, notamment à travers le développement des chaînes d'approvisionnement en minerais critiques. Plus de détails avec Paul
Mounanga. En décembre 2025, la RDC et les États-Unis ont signé cet accord de partenariat stratégique. Celui-ci prévoit une collaboration dans les domaines des minerais stratégiques, des infrastructures ainsi que de la paix et de la sécurité. Dans ce cadre, deux entreprises minières américaines sont déjà présentes en RDC pour des projets pilotes. Cobalt Metals et Virtus Minerals, toutes deux actives dans le Grand Katanga. Le directeur général de Cobalt Metals a précisé que pour l'instant, l'entreprise est en phase d'exploration du lithium. Benjamin Katabuka.
Nous avons déposé, obtenu 14 permis de recherche dans le secteur du lithium et aussi dans le secteur du cuivre. Nous avons pu engager plusieurs collègues, des géologues, qui travaillent actuellement sur le projet d'exploration de lithium à Manono. Donc nous sommes concentrés pour l'instant dans ce secteur-là d'exploration et nous allons, dans le mois qui suit, déployer aussi des équipes pour l'exploration du cuivre.
De son côté, Virtus Minerals, qui a récemment acquis la société chez MAF, prévoit de relancer la production du cuivre et du cobalt sur les sites de Mutoshi dans les Lualaba et de l'Étoile dans le Haut-Katanga. Lubumbashi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Mauritanie, tous avaient signé quelques jours plus tôt un manifeste de repentir dans lequel ils s'engagent à respecter la sécurité des biens, des personnes et des institutions et demandent pardon pour les crimes qu'ils ont commis. Parmi eux figurent notamment certains des auteurs de l'attentat d'Alègue qui avait coûté la vie à 4 touristes français en 2007.
L'invité.
Le poids de deux vies, aimé pour deux, et l'amour au creux de nos blessures. Ce sont les titres des deux nouveaux ouvrages de Salam Abibilei portés sur les fonds baptismaux samedi à Goma. Dans les premiers livres, l'autrice rend un vibrant hommage aux mères célibataires, ces femmes courageuses qui portent seules le poids émotionnel et économique de leur foyer. Le second ouvrage, lui, se veut une véritable fenêtre ouverte sur l'espoir. Il rappelle que l'amour reste possible, même après avoir traversé les pires épreuves de la vie. Qu'est-ce qui a inspiré ce récit? Salam Abibilei répond dans cet entretien avec Rosalie Zawadi.
Salam Abibilei, bonjour.
Bonjour, madame Rosalie.
Vous écrivez toujours sur vos expériences. Parlez-nous un peu de ce que vous vivez pour arriver à écrire ça.
En fait, après ma séparation avec mon ex, je me suis retrouvée toute seule en train d'élever les enfants. Et c'est au travers les défis de chaque jour que je vois dans ma vie quotidienne que j'ai eu l'inspiration de parler du poids de deux vies. Parce que je porte la charge émotionnelle que le papa était censé porter et la charge émotionnelle qu'une maman est censée porter.
Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, pour que vous puissiez arriver à écrire? Quel déclic? Un événement où vous êtes dit, peut-être les papas auraient dû faire ça, mais il n'est pas là et c'est moi qui suis là à tout faire. C'était quoi?
En fait, le déclic, c'était un pas dans ce sens-là. J'étais en train de discuter avec une dame et elle m'a lancé un truc. Elle a dit, les femmes qui sont seules avec leurs enfants, elles sont toujours en quête de chercher à attribuer la responsabilité de leurs enfants aux maris des gens ou aux gens qu'elle rencontre. C'est vrai qu'elle ne parlait pas de moi, elle parlait juste comme ça, dans le hasard. Et sur le coup, ça ne m'a rien fait. Mais le soir, quand je suis rentrée, j'ai eu un peu mal parce que on croit que quand on vit seul avec ses enfants, la priorité, c'est de prendre un homme, un autre homme pour venir jouer le rôle de papa dans la vie de ses enfants. Et c'est de là que l'inspiration est venue.
Pour montrer que, au juste, la femme qui vit seule avec les enfants, elle doit aimer pour deux.
Oui, c'était pour montrer que nous sommes conscientes que les papas, peut-être, ils sont démissionnaires et tout, mais nous, à notre niveau, nous savons que nous devons aimer pour deux, et pour le papa et pour la maman. Elles ne sont pas en quête des nouveaux papas pour venir jouer le rôle paternel dans la vie de nos enfants.
En disant le poids de deux vies, aimer pour deux, est-ce que vous arrivez à aimer pour deux ou vous essayez plutôt d'aimer pour deux?
C'est un essai continuel. Tous les jours, j'essaye de le faire, mais ce n'est pas évident. Il y a des jours où on y arrive, où ça paraît plus facile. Il y a des jours où c'est facile, il y a des jours où on n'y arrive pas. Donc, c'est un essai continuel.
Quel message avez-vous adressé aux hommes à travers ces livres?
Ce que je veux que les hommes sachent, c'est que, comme je l'ai dit, l'amour peut finir, c'est normal, c'est un sentiment, ça peut s'évaporer. Mais la responsabilité envers les enfants reste. Donc tu peux te séparer de ta femme, mais tu dois garder en tête que tu restes responsable de tes enfants et tu dois assumer cette responsabilité.
Et aux femmes, quel message vous avez?
Pour les femmes qui sont dans la même situation, je veux leur dire que c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai qu'il y a des jugements externes parce que les gens peuvent te juger, mais ne savent pas ce que tu vis. Mais qu'elles sachent que leur sacrifice n'est pas vain. Elles sont vues par leurs enfants. Les enfants voient ce qu'ils sont en train de faire. Et leur plus grand bonheur, leur plus grand prix, c'est le bonheur des enfants, c'est l'épanouissement des enfants. Parce qu'il vaut mieux pour un enfant d'avoir deux parents séparés, épanouis, qu'il y ait deux parents qui vivent sous les mêmes toits, mais qui sont en train de se détruire mutuellement.
Et le deuxième livre, c'est l'amour au creux de nos blessures. Le message essentiel aussi de ces livres?
Le message essentiel, c'est juste dire que même quand tout paraît noir, même quand ça ne va pas, même quand on est blessé, même quand on ne voit pas l'issue, c'est possible de rencontrer quelqu'un de bien. Tout est possible. Il n'y a pas de chemin tracé pour la guérison ou bien pour l'amour. L'amour peut te rencontrer n'importe où, même quand tout est noir autour de toi. Et cet amour-là peut devenir la lumière qui va t'orienter vers la guérison.
Vos deux livres, en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir?
En résumé, ce que je peux dire pour l'amour au creux de nos blessures, c'est de dire que même quand tout est noir, même quand on est blessé, il est possible de rencontrer un amour et de vivre une relation saine. Pour le poids des deux vies, c'est juste dire aux mamans solo qu'on les voit, que leur sacrifice n'est pas inaperçu et que leur prix, c'est le bonheur des enfants.
Et à quelqu'un qui dirait que ceci arrive parce qu'on s'est séparés, peut-être qu'il fallait rester dans les mariages, même si ça n'allait pas.
La personne qui dit ça, c'est une personne qui n'a pas vécu un mariage difficile ou toxique. Au contraire, quand ça arrive, on dit, c'est bien que je sois partie. Parce que si une personne est capable de délaisser peut-être ses enfants, cela veut dire que foncièrement, ce n'est pas une bonne personne. Le seul regret qu'une femme divorcée, une femme séparée doit avoir, c'est de ne pas être partie trop tôt, de partir en retard. J'aime les dire tout le temps. En tout cas, c'est ma phrase que je dis à tout le monde. Aucun mariage ne vaut ta vie ou ton bonheur. Quand ça ne va pas, quand c'est une question de vie ou de mort, il faut partir. Pour les enfants, on part.
Madame Salama Bibilé, merci.
Merci.
C'était notre invité Salama Bibilé qui s'entretenait avec Rosalie Zawadi. Voilà qui met fin à cette grande édition du journal parlé dominical de la mi-journée, coordonnée et supervisée par Jean Gandou Kabongo et mise en onde des mains des maîtres par André Mongou. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net. Merci et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.